Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 18e numéro du Player Club, premier numéro complet de l'année 2015. C'est parti pour une heure complètement inédite avec ce soir deux invités. D'abord, une grande habituée de ces ondes, Chloé, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors toi, tu écris pour lefigaro.fr et même dans les pages imprimées du Figaro de temps en temps.
Bah, même plus que de temps en temps, maintenant, tous les jours.
Oh,
tous les jours.
Mais dites donc, voilà, il faut dire aux gens comme ça, achetez le Figaro, vous aurez du Chloé Wauthier dedans. Il faut le dire très régulièrement, voilà. Avec nous aussi, on le lit dans la rubrique Pixel du Monde, c'est William Oduro, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, avec vous deux, on va discuter de la presse généraliste et de son traitement du jeu vidéo. Mais tout d'abord, on va aller vers une petite chronique de notre ami Alex Le Serveur qui a décidé de nous parler des Sims 4. Et figurez-vous, la première extension est sortie vraiment très 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 bientôt. Hein, ça s'appelle Destination Nature et on va savoir de quoi il en retourne tout de suite avec Alex Le Serveur.
Bonjour à tous et bienvenue au paradis du camping. Vous rêvez de vacances, de nature, d'air pur, de détente au coin d'un feu. Eh bien tant mieux parce que je vous emmène au pays des Sims 4. Non, ne hurlez pas, attendez, ne partez pas en courant. Ok, disons que ça a plutôt mal commencé entre le 4ème épisode de la licence la plus écoulée dans le monde et la communauté de joueurs, mais on va se rattraper. 4 mois après la sortie des Sims 4, voici donc la première extension officielle appelée Destination Nature. Et cela vous rappelle certainement Destination Aventure, la première extension des Sims 3. Néanmoins, attention, petit point sémantique. Jusque-là chez les Sims, parmi les add-ons, on distinguait les épisodes d'extension vendus pour une 40aine d'euros et introduisant de nombreuses nouveautés ainsi que de nouveaux éléments de gameplay et les kits d'objets vendus une 20aine d'euros qui eux se contentaient d'apporter du contenu brut, c'est-à-dire de nouvelles fringues et du mobilier en gros. Les Sims 4 innovent et proposent ce qui est dénommé pack de jeu. Pour 20€, on a donc droit à une sorte de kit d'objets amélioré puisqu'il apporte aussi du gameplay. Vous l'aurez deviné, Destination Nature est le premier de ces packs de jeu. Au menu donc du camping. Sortez les tentes, avec un E s'il vous plaît et pas de blague sur moi, merci, on part donc en forêt. Pour l'occasion, on nous gratifie d'un troisième mini quartier où se situent quelques chalets à louer. Pour le dépaysement, on l'a. Bon, par contre, il ne faut pas s'attendre à un immense terrain non plus. C'est plutôt à l'image des Sims 4, donc à peine une 8aine de lots. On trouve également de nombreux objets liés au camping, les fameuses tentes, les glacières, le feu de camp, le jeu du fer à cheval, le mobilier rustique en bois, ainsi que des vêtements de circonstance et pourquoi pas un costume d'ours. Mais aussi un nouveau trait de caractère, délicat pour ne pas dire gay, des insectes à attraper en plus des nouveaux poissons et des nouvelles plantes qui, soit dit en passant, permettent de travailler la nouvelle compétence herboristerie, ainsi qu'une nouvelle aspiration. Ouf, ça en fait des choses, un tas de trucs même. Côté contenu, on peut dire qu'on est plutôt gâté quand même et ça fait plaisir. Malheureusement, c'est bien toujours l'architecture des Sims 4 qui pose problème, à commencer par cette horrible absence du quartier ouvert. Ici, ce n'est gênant que si on veut se rendre chez un voisin de chalet, mais quand même. En somme, Destination Nature est un bon petit pack de contenu pour un jeu qui lui est par contre relativement boiteux malgré les dernières mises à jour gratuites venues colmater les fuites de cette licence historique. Ça va un petit peu mieux, mais les Sims 4, c'est toujours pas ça. Et c'est bien dommage. Allez, on y croit, il n'est jamais trop tard. Soul soul.
De 21h à 22h, le Player Club.
Vous écoutez toujours le Player Club avec moi, William Oduro du Monde.fr, rubrique Pixel, et Chloé Wauthier du Figaro.fr et du Figaro. Nous allons donc parler du traitement de la presse généraliste, mais juste avant, j'aimerais préciser, parce que c'est Alex Le Serveur qui m'a fait remarquer, non, l'extension dont il parle dans sa chronique, elle est déjà sortie. Voilà, vous pouvez déjà la prendre si elle vous intéresse, ou vaguement l'ignorer si tel n'est pas le cas. Donc, ce soir, nous allons parler du traitement du jeu vidéo par la presse généraliste, à la fois donc sur le web et en print. suite. Et alors, tout d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, et qui est une question apparemment fondamentale de ce qu'on a discuté hors antenne, c'est comment vous traitez l'actualité, donc l'information, ce qu'on appelle les news, qui généralement, voilà, apparaît, il y en a 30, 40 petits articles comme ça qui sont publiés sur les gros sites de jeux vidéo habituellement. Comment vous traitez cette actualité-là de tous les jours sur des médias généralistes, donc qui s'adressent à un public totalement différent, qui s'adressent au grand public? Vu que vous avez donc moins de place, vu qu'il y a d'autres informations autres que le jeu vidéo qui apparaissent sur ces médias-là, sur quels critères se fait le choix, qui est forcément voilà, de faire un petit peu moins d'informations?
Bah alors, j'ai commencé.
Oui. Donc,
ce qui est clair, c'est que nous sommes un site et ou un journal généraliste. Mmh. On n'a pas vocation à être spécialiste, donc on n'a pas vocation à faire un article dès qu'il y a un nouveau trailer, dès qu'il y a deux images, ce genre de choses. Tu vois, ça va sur la presse P. Et de toute façon, les gens qui sont intéressés n'iront pas sur le Figaro pour voir le nouveau trailer de GTA 6 et je ne sais quoi.
Donc ça déjà, ça réduit un peu la voilure à parler.
Oui, 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 ça réduit beaucoup. Nous, ce qu'on va sélectionner comme news importante, alors moi j'ai une petite particularité, c'est que je travaille pour une rubrique économie. Mm-hmm. Donc il faut que j'ai un angle économique. Tu vois, le fait machin lance un jeu, toi on s'en fiche. Mm. Par contre, si c'est quand c'est des nouvelles consoles, évidemment, on va le traiter sous l'angle éco, forcément. Mm-hmm. Si on va parler d'un jeu, c'est parce que c'est un jeu qui c'est un phénomène. Donc, par exemple, GTA V, on l'a beaucoup écrit dessus. Mm-hmm. Parce que c'est quand même, au-delà du lacère du jeu vidéo, c'est quand même un phénomène de société et un phénomène économique.
Et en termes de chiffres, on a sorti le chiffre qui a été contesté, évidemment, mais le chiffre, je crois que c'était de 500 millions de budget, un truc comme ça. Une folie quelconque. Enfin, de toute façon, le chiffre était faux.
C'était Destiny, mais.
C'était Destiny, d'accord. Excusez-moi.
C'était Destiny.
Ok. Prendre avec énormément de pincettes.
Avec énormément de pincettes, d'autant plus qu'on a signé 14 suites et on ne sait pas trop où ça soit de ce côté-là aussi. C'est assez bizarre.
Il y a ça. Et toi, pareil, si on va parler d'une... Enfin, je parle toujours au nom du Figaro. Mm-hmm. Si on va parler... Ça m'est arrivé de faire des papiers sur, je sais pas, Pokémon, Yo-Kai mm-hmm. Watch au Japon. Enfin, j'aime bien aussi traiter un peu de tout ce qui se passe un petit peu au Japon, mais du côté économique, pour montrer bah, déjà voilà, que ça pèse, mm-hmm. mine de rien. Et que c'est aussi des... Pareil sur le côté Japon, que c'est des changements de modèle économique, de support... qui sont pas forcément arrivés totalement en Occident. Oui. Mais ça, tu vois, parce que on a une logique plus, comment dire, plus large, mm-hmm. et surtout, bah, évidemment, basé sur l'économie, vu que c'est ma rubrique.
Donc, derrière, on parle plus de l'économie des entreprises, des stratégies des entreprises ouais. qui sont derrière, plutôt que de jeux vidéo en tant que tel.
Voilà, du jeu vidéo pur et dur, on en a fait au tout début sur le Figaro.fr, enfin au tout début, en partir de 2011. Uh-huh. On faisait beaucoup de tests, enfin, beaucoup, mmh. on en faisait un par semaine à peu près. Et après, ça nous arrivait aussi de faire des papiers culture, disons-le, avec des interviews, des reportages, enfin, peut-être fait deux ou trois, qui du coup ne trouvent plus leur place maintenant en économie. Mmh. Mais c'est toujours possible d'en faire, mais ils seront rangés en culture et plus en écho. Mais c'est pareil, tu vois, il faut trouver j'ai pas trop monopolisé la parole, mais il faut trouver un traitement et un angle et des sujets qui intéresseront le plus grand nombre. D'accord. Et ça, c'est pas toujours évident.
Oui,
parce que truc que pour nous paraît ultra important en tant que gamer, bah c'est pas dit que le player lambda lui ça l'intéresse, enfin il voit pas forcément genre ouais bon qu'est-ce qu'il y a de phénoménal à ça. Donc ça c'est le petit défi qu'on a en plus en pré-gêné. Et je laisse la parole à Will.
C'est de faire le pont. Effectivement, William, toi, ouais. du côté du monde et de Pixel, c'est différent l'angle généralement qui est
alors,
appliqué.
C'est à la fois pareil sur la problématique qu'on rencontre, à savoir, évidemment, on ne peut pas être exhaustif, on ne cherche même pas à l'être, ça n'aurait aucun sens. Et différent dans la mesure où je pense qu'il va y avoir très peu de sujets qu'on va traiter en commun. Du côté du monde et du côté du Figaro, puisqu'on a deux approches qui sont assez différentes. Mmh. Premier aspect, et tout bête, c'est quand vous allez sur un site de jeux vidéo, Gamecult, jeuxvideo.fr, Gameblog, en théorie, on peut supposer que 100% des lecteurs aiment le jeu vidéo. Ou alors, il y a vraiment un problème de redirection au niveau de Google. lorsque vous allez sur un site comme Le Monde, Figaro, Libération, etc., on peut supposer que le pourcentage de personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo est, alors là, j'ai absolument aucun chiffre comme ça, mais peut-être de 10%, peut-être de 30%, on n'en sait rien. Mais ça veut dire qu'il y en a potentiellement 70%, par exemple, qui ne s'y intéressent pas.
D'accord.
Donc vous, forcément, au moment où vous choisissez votre article, il faut vous dire bah, comment je peux faire, quel sujet il faut que je choisisse pour que ça parle au plus grand nombre. Parce que forcément, si vous êtes sur un sujet clivant, bah le but, c'est pas de faire un sujet qui va parler qu'aux petits initiés. Alors ça, c'est la théorie. Après, il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui, quel que soit le sujet, de toute façon, ne viendront jamais voir votre article parce que c'est des jeux vidéo et que de toute façon, elles s'en fichent royalement. Donc vous n'aurez quasiment jamais 100% de l'audience, quoi qu'il arrive.
Le mot jeu vidéo pour ces personnes-là est carrément un repoussoir.
Peut y avoir un intérêt proche de zéro. Et là, j'ai envie de dire, c'est une des problématiques assez intéressantes qu'on rencontre, c'est que c'est très générationnel. Je pense qu'il y a un public qui a grandi avec le jeu vidéo comme quelque chose d'extérieur, qui est peut-être le loisir de leurs enfants, par exemple, et pour qui le traitement médiatique du jeu vidéo a toujours été, ben, ça fait de l'argent, et peut-être que c'est lié à la violence, on sait pas trop, mais ces personnes-là, évidemment, c'est pas celles-ci qu'on va chercher à entre guillemets récupérer ou intéresser en premier. Évidemment, si on trouve un sujet qui les intéresse, c'est génial. Mais la demande et l'envie de lecture, en vrai, elle émane énormément des personnes qui sont de la génération de la NES et de la Master System, qui ont grandi avec le jeu vidéo, qui sont aujourd'hui des lecteurs de quotidiens généralistes, qui ont un pouvoir d'achat et qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, ou en tout cas qui ont suffisamment joué pour avoir cette culture-là.
Donc l'idée est plus d'intéresser les trentenaires qui sont déjà intéressés par l'information et de les rendre, on va pas dire captifs, mais simplement continuer à les faire circuler dans des sites comme Le Monde, Le Figaro, etc. Plutôt que d'essayer d'attirer des gens qui de toute façon se dirigeront vers d'autres médias. L'idée c'est de parler de jeux vidéo aux trentenaires finalement qui sont déjà séduits par ça.
Alors en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que... Bon, écoutez, moi, ça fait 6 mois que j'écris dans la rubrique Excel du Monde. Au début, j'avais certaines idées sur ce qui pouvait intéresser. Je me disais, je pense qu'il y a un angle international dans le jeu vidéo qui collait à peu près avec Le Monde. Et en fait, à ma grande surprise, les papiers qui ont le plus marché, c'est très souvent des papiers de nostalgie. Un papier comme Secret of Mana, par exemple, qui fête ses 20 ans, a énormément marché. Vraiment, beaucoup de lecteurs, des avis très positifs, les quelques instruments qu'on a pour pouvoir dire « Ok, ce papier-là, il est intéressé. Moi, ce papier-là, il est intéressé. » Et ça, c'était assez marrant. Pareil, un papier sur Majora's Mask, un jeu qui est sorti il y a quand même 15 ans maintenant. C'est un papier qui était très, 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 très lu. Donc là, c'est assez intéressant. Je pense qu'on a aussi une partie du lectorat qui, en vrai, a grandi avec le jeu vidéo, et qui, pour plein de raisons, alors le travail, les enfants, ne peut plus forcément y jouer. Mais par contre, ils ont conservé une fibre nostalgique, tout simplement des souvenirs.
Ils ont gardé des noms, ils ont gardé...
Et dès que vous en parlez, ça c'est génial, c'est qu'en fait, vous pouvez complètement avoir lâché le jeu vidéo. Si on vous parle de ce que vous avez connu, bah, ça vous parle toujours. Et la problématique là-dessus, c'est qu'en fait, comment on fait, par contre, pour parler de jeux très 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 récents? Ça, c'est pas évident. Parce que là, paradoxalement, en fait, il peut y avoir beaucoup moins de... beaucoup moins d'intérêt. En tout cas, il est moins perceptible.
D'accord. Sur la question vraiment des jeux, des critiques, des tests, même simplement de parler des jeux en eux-mêmes, on y reviendra juste après. Juste pour finir sur la question de l'actualité en tant que telle, il y a des événements particuliers à l'actualité du jeu vidéo qu'on connaît tous, hein, qui sont le 3, qui sont la Gamescom, qui sont le Tokyo Game Show, ces gros rassemblements où beaucoup de choses sont annoncées. Comment est-ce que vos médias considèrent ce genre d'événement-là? Est-ce qu'il y a une couverture? Est-ce qu'ils vous y envoient?
Alors, pour le FIG, le 3, on y va.
Ah.
On y va tous les ans. Et pour citer mon chef l'an passé, c'était « mais évidemment que tu y vas ». Voilà, le 3, c'est vraiment installé dans la rédaction comme l'événement central du jeu vidéo, auquel il faut être, parce que voilà, il va y avoir les annonces, c'est là qu'elles vont se faire.
Ça, c'est peut-être dû pour le coup à la télévision, notamment, qui en parle depuis assez longtemps maintenant, depuis 5 voire 10 ans. On a toujours un sujet, genre au journal de 20h, aux 20h de France 2 et même de TF1, sur le 3, pour le coup.
Je pense que c'est l'événement le plus connu du grand public.
Aussi, oui.
Enfin, après, le grand public connaît pas forcément le 3, mais bon, quand on dit salon du jeu vidéo, États-Unis, ouais, vaguement, je vois ce que c'est.
Quelque part en été, voilà, ouais.
Et alors que bon, tu parles de la Gamescom. La quoi?
Des Allemands qui jouent aux jeux PC, mais enfin quoi?
Voilà, la Gamescom. Et surtout, après, bon, je pense que c'est pareil dans la presse spécialisée. Le souci de la Gamescom, c'est qu'elle arrive pas si longtemps que ça après le 3. Et du coup, enfin, en tout cas, pour ma rédaction, c'est redondant.
On a déjà fait un salon.
On a déjà fait un salon. Et surtout, enfin, nous, vu qu'on couvre pas vraiment le côté produit, L'argument, oui, mais là, on va pouvoir vraiment essayer les jeux, bah, pour nous, ça tient pas.
Mais alors, pour le coup, mettons qu'une année, il n'y a pas de console qui soit annoncée, ce qui arrive quand même de temps en temps, quel est l'intérêt du Figaro à aller à l'E3? Enfin, il y a quand même de quoi parler de l'industrie, même quand il n'y a pas de console?
Bah oui, tu vois, au niveau de l'offre de jeux.
En termes de quantité, vois, pour le coup.
Voilà, mais même au niveau de la qualité de ce qui est présenté, des nouveaux services, parce que tous les ans, ils présentent des nouvelles choses.
Ça, c'est vrai.
Donc, c'est l'occasion de faire des papiers et stratégies. Voilà, c'est. Après, t'as aussi des chiffres qui sortent à peu près à ce moment-là. Donc, c'est alors, tu fais le point, où est-ce qu'on en est comment chacun fourbit ses armes en prévision de Noël. Enfin, c'est, tu vois, c'est le genre de papier strat qu'on fait très facilement tous les ans au niveau des, comment dire, au niveau des conférences du lundi. Et après, bon, alors moi, j'ai fait deux E3 jusqu'à présent, donc celui de l'an passé et celui encore d'avant, donc on était en plein dans la nouvelle next-gen. Là, cette année, si j'y retourne, ce sera mon premier E3 où il n'y a pas forcément une actu aussi évidente. Donc bah, là, je te dirai comment ça se passe. mais après, bon, après, tu trouves sur place des... De toute façon, nous, en tant que presse économique et surtout bah, des représentants quand même de la presse française, on est quand même des titres importants, Le Monde comme Le Figaro, on a aussi très facilement accès à des interviews de dirigeants d'entreprises de jeux vidéo. Donc, c'est ça aussi qui va beaucoup nous occuper. Enfin, moi, je sais que le dernier E3, j'ai fait énormément d'interviews, j'ai fait quasiment que ça, plus que vraiment d'essayer les jeux. Enfin, c'est rendez-vous avec les pontes de Microsoft, les pontes de Sony, les pontes de EA, les pontes de machin, les pontes de trucs. Enfin, ça occupe très, très vite ton emploi du temps.
De ton côté... Ah non, pardon, excuse-moi, vas-y.
Et juste un mot pour le Tokyo Game Show. J'aimerais beaucoup le couvrir, mais là, c'est juste pas possible. Non, parce que vu que c'est très centré sur le marché japonais, du coup, ça intéresse un peu moins. Ça intéresse beaucoup moins, et surtout, bah, c'est loin.
C'est cher.
Donc voilà, on fait l'impasse, et c'est juste s'il y a des grosses annonces, on va les reprendre dans le papier, mais toi, à distance, sans être sur place.
D'accord. Très bien, bah, il y a quand même des papiers, c'est bon à savoir. Avant que William ne revienne, une question d'auditeur pour le coup, Darkubi qui demande, est-ce que c'est déjà arrivé que le rédac chef ou la rédac chef vous fasse faire le papier bateau les risques du jeu vidéo?
Non.
Tant mieux. Je pense. Non, mais voilà, après parce que pour le coup, c'est vraiment un gros marronnier. N'hésitez pas à poser vos questions hashtag le Player Club. Là, on va y revenir dans quelques instants à vos questions, mais d'abord, William, par rapport à l'E3 et par rapport au gros salon, quelque chose à ajouter par rapport au monde ou par rapport à ta vision du truc?
Alors, je suis assez d'accord, hein, l'E3, c'est une évidence absolue. De toute façon, en général, faut pas se voiler la face, c'est la question que va se poser un média au moment de se demander.
Au moment de l'E3, je crois que c'est plus...
J'ai un assistant à côté de moi qui a plein de choses à me raconter.
Jeune assistant, mais talentueux, il faut le dire.
Exactement. Non, en fait, un média, quand il se pose la question, est-ce qu'on va à l'E3 ou pas, en général, il a deux manières de se poser la question. Il va se demander, est-ce que ça va être rentable, parce que forcément, c'est des frais engagés d'un côté. Est-ce que le nombre d'articles ou est-ce que l'importance des articles vont justifier d'envoyer une ou deux personnes là-bas? L'autre question, c'est... Tout bêtement, en termes de prestige, être présent en événement important, pour un média qui est important, c'est important. Voilà, je fais la plus belle phrase de ce soir, je pense. Donc, tout ça pour dire que l'E3, oui, c'est une évidence, c'est quelque chose qui ne se discute même plus. Bon, quand j'étais à 01net, bon, problématique sensiblement différente, mais pas tant que ça.
Site spécialisé tech, on précise. Hein,
exactement. Même sur les E3 pauvres, on y allait. Mais de toute façon, il faut savoir une chose, hein, c'est que le propre de l'E3, c'est que tant qu'on n'y est pas allé, on ne sait pas si on a bien fait de faire les déplacements ou pas. Alors évidemment, il y a des fois, de plus en plus, il y a des fuites en amont, mais on espère toujours quelque chose, c'est le propre de l'E3. Après, sur les autres salons, la Gamescom, effectivement, elle est très très mal placée, le nombre d'annonces n'est pas très intéressant pour un média généraliste. De toute façon, ce qu'on va y présenter à la Gamescom, c'est surtout de nouveaux trailers, de nouvelles versions jouables, c'est pour la presse P. C'est pour la presse P. La presse P, c'est très bien, pour la presse généraliste, aucun intérêt, puis ça tombe à peu près au pire moment. C'est début août ou mi-août, qui est une période où il n'y a en vrai pas des masses de lecteurs. Quant au Tokyo Game Show, le Tokyo Game Show, J'y suis allé pour le monde cette année.
Ouais.
Je pense qu'il y avait une... D'une certaine manière, c'était un peu expérimental, parce que c'est clairement la toute première fois que le monde envoyait quelqu'un à Tokyo pour couvrir un salon de jeux vidéo. Mm-hmm. Il se trouve que malheureusement, c'était bon, c'était pas le plus grand TGS qu'on ait connu, même si il paraît que l'édition précédente était pire. Ça reste un... Il y a un intérêt pour ce salon, parce qu'il dit beaucoup de la culture japonaise. Mm-hmm. Et sa principale limite, c'est que, ben forcément, justement, il a moins d'aura auprès des lecteurs français. Il est moins connu et les annonces qui vont y être faites, elles ont peu de chances en fait de nous toucher. Donc c'est, j'ai envie de dire que c'est un petit peu un plaisir gourmand de journaliste que de vouloir aller au Tokyo Game Show. Vivement qu'il y ait des annonces absolument fabuleuses, le fait que le PlayStation 4 se vende aussi bien, peut-être que ça nous réserve de nouveaux TGS formidables. Mais il y a un réservoir à sujet de toute façon au TGS, mais c'est vrai qu'il est peut-être plus dur à rentabiliser que le 3.
Bah, je pense que le TGS redeviendra incontournable pour la presse généraliste le jour où c'est la scène japonaise qui redeviendra incontournable au niveau du jeu vidéo. Si c'est là que les grosses annonces se feront au niveau des jeux ou même au niveau des consoles avec Sony, bon bah là, il y aura beaucoup plus d'intérêt à ce qu'on y aille. Mais pour le moment, le centre de gravité est aux États-Unis, donc on va à l'E3.
Très bien. Alors, pour le coup, on l'évoquait il y a un instant, il y avait pour le coup, beaucoup plus régulièrement, tu disais, Chloé, des thèses, des critiques de jeux sur le figurant il y a quelques années. Le choix des jeux, là aussi, est-ce qu'on prend uniquement les plus grosses sorties, donc les gros marronniers, le Mario, le GTA, le FIFA? Est-ce que au niveau du ton, on se base sur quelque chose aussi peut-être un petit peu plus policé, un petit peu moins incisif, parce qu'on s'adresse à un public qui est un peu moins tatillon aussi, qui est moins connaisseur, ou comment finalement on approche les jeux, si on les approche, dans ces médias-là?
Alors, avec beaucoup de pédagogie. Avec de la pédagogie, parce que donc on part du principe, comme on l'a dit au tout début, qu'on s'adresse à un public qui n'est pas forcément spécialiste. Mmh. Donc on va certainement pas lui parler de framerate et de FPS et de tous ces termes un peu techniques
et même de gameplay, hein, une notion
de
aussi
gameplay,
simple
ouais. ça c'est toujours un peu compliqué, le gameplay, j'essaie quand même de le placer de temps en temps. Mais ou alors tu vois, tu vas mettre le terme et tu l'explicites entre parenthèses voilà, pour que ce soit clair, mais disons t'évites de jargonner déjà. Allez. Parce que sinon ton lecteur il comprend, enfin tu vois, il est pas forcément censé comprendre comment ça marche. C'est comme quand tu tombes sur un papier bourse qui est fait pour les spécialistes, ouais. Et que toi t'es pas spécialiste et t'es là genre au secours, mais ça, qu'est-ce qui se passe?
Ça va être très compliqué pour le coup de mettre aussi 15 notes de bas de page pour expliquer à chaque fois chacun des termes.
Voilà, donc, mais c'est un vrai exercice d'écriture du coup. Ce qu'il faut. Du coup, tu rentres pas forcément dans les détails techniques parce que ça, toi, mis à part dire c'est joli, c'est moche, tu vas pas non plus aller beaucoup plus loin parce que, bon, en plus, ça intéressera pas forcément ton lecteur. Donc, toujours pédagogie, pas trop long. Ton lecteur il va pas lire un test de 25 000 signes parce que voilà, il veut aller droit à l'essentiel. Donc nous, ce qu'on avait fait, on avait fait un découpage qui était parfait ou imparfait, j'en sais rien, mais qui était voilà, on fait un petit paragraphe pour expliquer voilà de quoi parle le jeu, un autre sur la critique, enfin un truc plus développé sur la critique en elle-même qui pouvait aller entre donc je vais parler en feuillet, attention, entre 1 et 2 feuillets, donc 1500-3000 signes, même si je pouvais faire plus selon l'inspiration. Ensuite, c'était combien de temps il faut pour finir le jeu, parce que ça aussi, c'est une donnée qui peut être importante pour pas mal de joueurs. Oui, et le dernier, c'était, voilà, c'est pour quel type de joueur ça s'adressait. Il me semble que c'était ça le dernier.
William voulait réagir.
Oui, il y a deux points que je trouve super intéressants. Alors voilà, je suis content qu'on en parle. Alors le premier, c'est le mot gameplay. Alors à titre purement personnel, je pense que ça va faire à peu près 7 ou 8 ans que je l'ai plus employé, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'évidemment pour quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire, et ben, c'est incompréhensible. Et je pense que même que pour quelqu'un qui croit savoir ce que c'est quasiment impossible à définir. Ou plutôt, le mot gameplay, une espèce de mot valise dans lequel on met en vrai tellement de sens différents que... C'est l'ennemi du testeur, c'est l'ennemi du journaliste.
Toutefois, j'ai l'impression que c'est plus le cas quand même en anglais qu'en français. En français, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de pseudo compromis sur ce que ça signifie. Mais j'ai l'impression que le débat est beaucoup plus anglophone. Après, je me trompe peut-être, mais
je sais pas. J'ai l'impression que quand tu utilises le mot gameplay, en vrai, d'ailleurs, c'est un type de langage. c'est surtout à l'exclusion de la partie technique, de la partie musicale. C'est un mot qu'on a collé à un moment donné dans la presse spécialisée pour parler de ce qui relevait du jeu lui-même.
De ta manière d'interagir avec.
Alors, ça peut être la manière d'interagir avec le jeu, ça peut être l'ensemble des règles, ça peut être le système et son élaboration, ça peut être plein de notions qui sont plus ou moins abstraites et qu'on a tendance à stratifier de manière un peu plus précise en game design et qui sont très difficiles effectivement à détailler. On n'a pas le vocabulaire pour ça.
D'accord.
Donc du coup, quand on parle pour la presse généraliste, je sais pas ce qu'on veut dire, c'est presque une chance. Dans la presse P, si on n'emploie pas le mot gameplay, quelque part, on perd un petit peu en crédibilité. Mmh. Il faut jargonner un minimum dans la presse spécialisée pour prouver à son lecteur qu'on a, je sais pas, une espèce de connaissance, un côté entre soi, ça joue. L'avantage avec la presse généraliste, c'est qu'au contraire, on doit s'en débarrasser et essayer d'inventer des fois un nouveau langage. Et ça, c'est assez gratifiant et ça, c'est intéressant. Alors des fois, c'est aussi, bon, c'est un peu, ça peut être un peu casse-gueule. Mais ça, c'est chouette. Tu faisais une autre remarque, Chloé, que je trouvais très intéressante, c'est bien d'indiquer la durée de vie. La presse spécialisée fonctionne depuis des années sur un principe, c'est que un jeu, plus il est long,
mieux c'est.
Mieux c'est. Et alors ça.
Non. C'est plutôt l'ennemi de notre
non. lectorat. Non, non, je n'ose même pas dire le nombre de personnes qui, en général, d'ailleurs, sont souvent dans la vie active et qui, du coup, pour plein de raisons, n'ont pas le temps forcément de finir leur jeu, pour qui un jeu long, c'est un handicap, c'est un moins. D'ailleurs, on n'aurait pas idée de se dire « Ah, ce film est génial, il dure 8 heures ».
Mais je pense que c'est un rapport qui a été fait 10 000 fois, mais c'est un lien de causalité un peu raté, parce qu'on dit, en gros, parce qu'un jeu est cher, un jeu doit être long, je dois en avoir pour mon argent, et parce qu'un jeu doit être long, forcément c'est un bon jeu. Donc on lit le fait que, voilà, c'est parce qu'un jeu est long, il est nécessairement bon. Non, c'est pas le principe derrière, mais.
Sans rentrer dans ce débat-là.
Il y a la variable argent qui rentre dedans, à mon avis.
Alors sans rentrer dans ce débat-là, alors faut dire aussi forcément que quand le lectorat a entre 20 et 50 ans, la variable de l'argent est beaucoup moins intéressante, beaucoup moins pertinente.
Ouais.
Donc du coup, raisonner en termes de consommateurs comme ça, c'est plus vraiment intéressant. C'est plus sur le prix que ça se joue, c'est vraiment sur la qualité de l'expérience. Et au moins, je pense qu'il y a juste une chose qu'on peut essayer de faire, c'est de pas calquer sur un public large des critères de jugement qui correspondent à un public précis.
Bien sûr.
Voilà. Je suis très sage ce soir.
Pour résumer, en gros, c'est une cible qui a du pouvoir d'achat, mais qui a peu de temps. Et donc, si elle décide d'investir son temps sur un jeu vidéo, voilà, il faut que il y ait un plaisir immédiat, que si possible ça dure pas trop longtemps, parce que tu vas pas forcément pouvoir négocier, je sais pas, 50 heures sur ton écran en ayant à gérer ta vie quotidienne, etc. Donc voilà, c'est vrai que la question du temps, et aussi un truc aussi bête que genre la fréquence des sauvegardes. Est-ce que tu peux sauvegarder quand tu veux? Du coup, ce qui permet, hop, il y a bébé qui a besoin de toi ou n'importe quoi, tu quittes, c'est fini.
Et d'autant plus pour un jeu sur console portable, entre parenthèses, où l'idée c'est tu vas prendre ton jeu pour faire ta commute entre deux arrêts de train ou entre deux arrêts de métro. Est-ce que tu vas avoir simplement le temps de faire quelque chose de sérieusement ou est-ce qu'au contraire, t'es emmerdé? Oui, effectivement.
Donc, c'est des choses à prendre en compte, on prend en compte quand on fait une critique de jeu. Voilà, c'est une dimension qui est très importante et qu'il faut souligner.
Je vais utiliser une réaction d'auditeur, toujours au hashtag LePlayerClub, je vous le rappelle, c'est Aliboul qui nous dit, en fait, votre avantage, oui, il a un pseudo fantastique.
Non, depuis tout à l'heure, justement, je voulais parler de ce tweet, et je me préparais à dire, donc, il y a Taléboulès, mais je voulais le prononcer Taléboulès.
Taléboulès, c'est le théorème de Taléboulès, mais est-ce que c'est le tweet qui est, en fait, votre avantage par rapport à la presse JV, c'est que vous pouvez pleinement aborder le jeu vidéo comme un produit culturel. Bah, qu'est-ce que tu voulais dire d'ailleurs par rapport à ce tweet-là, William ?
Mais justement, en fait, tout à l'heure, en préparant un petit peu l'émission dans ma tête, je me demandais comment le jeu vidéo en est vu de la presse généraliste, être traité comme il est traité. Alors, c'est vrai que le côté Figaro, c'est un angle qui est plus écho. Libé a été le premier à avoir un angle vraiment économique, un angle culturel. Le Monde a peut-être plus été historiquement dans un angle un peu sociétal. Aujourd'hui, ça évolue peut-être un peu plus vers une approche plus culturelle. Et pourquoi ? Ce qu'on ne fait pas d'un point généraliste, c'est de traiter le jeu vidéo sous un angle conso. On le fait relativement peu. Pourquoi ? Parce que la presse spécialisée l'a toujours fait. La presse spécialisée s'est emparée très tôt de deux approches. Un, l'approche conso, avec des notes pour les jeux, des classements, lequel faut acheter, etc. Et une deuxième approche, c'est l'approche pratique. Comment faire pour finir votre jeu ? Et ça, du coup, on n'a jamais eu dans la presse généraliste. Forcément, le terrain était déjà pris. Mais ce sont des angles qui existent dans la presse généraliste sur d'autres objets, si vous regardez bien. Typiquement, quand vous avez l'Express ou Le Point qui vous font le guide des meilleurs vins de l'année, par exemple, vous êtes dans une approche purement conso. Lorsque vous avez un généraliste qui vous fait un reportage, mais un dossier sur comment négocier votre emprunt immobilier, vous êtes dans un guide pratique. Donc ces angles, ces approches-là, ils existent.
On est dans une soluce, c'est vrai. C'est...
Oui, c'est comment profiter de ce que vous pouvez avoir. Dans le jeu vidéo, du coup, on a dû se décaler sur ce qui n'était pas pris. Ce qui n'était pas pris par la presse spécialisée, c'était l'économie, c'était le culturel et c'était le sociétal. Mais d'une certaine manière, on a été un petit peu poussé par là.
Donc, et, aux différents médias ensuite de se positionner sur ces trois...
Alors, effectivement. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on devrait comparer, en tout cas c'est un travail à faire, hein, je l'ai pas fait, avec d'autres médias comme le cinéma par exemple. On ne traite pas de jeux vidéo comme on traite du cinéma. Mais peut-être parce que justement l'évolution des deux n'ont pas été la même dans la presse. Et je pense que ça serait intéressant de réfléchir là-dessus. Enfin, je ne sais pas du tout, Chloé, si tu en penses quelque chose, mais...
Mais si, non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que, enfin, nous, la presse gênée, on s'est orienté sur des angles qui n'étaient pas traités ailleurs. Parce qu'il y avait quand même, bon, là, c'est en train de, disons qu'il y a un mouvement de la presse spécialisée qui est en train de revenir sur ces sujets-là, mais disons qu'il y avait un trou béant sur tous ces types d'angles. Donc, il y avait un boulevard pour nous, on y allait. En tout cas, moi, à titre personnel, je m'éclate beaucoup plus à faire ce type de sujet que de faire un test. Enfin, pour moi, c'est pas mon métier, c'est pas ma mission de faire des tests de jeu. Enfin, je trouve j'ai pas forcément la légitimité pour le faire. Et je préfère me concentrer sur autre chose, quoi. Faire une interview, faire un papier anglais, faire un papier éco, plutôt que voilà dire décréter si un jeu ou un tel est bien du haut de ma petite expérience de joueuse. Enfin voilà, c'est aussi pour ça que j'en fais beaucoup moins de tests parce que ça m'intéressait pas plus que ça comme exercice.
Vas-y.
Et ce qui est terrible, c'est que de toute façon, même si tu fais un bon test sur le Figaro, tu seras toujours suspecté d'être moins légitime.
Ça
se comprend. Et c'est vrai que d'une certaine manière, qui va aller sur un site généraliste pour lire un pur test de jeu vidéo?
C'est
pas du tout dans la culture, et de fait, c'est pas dans le savoir-faire. Alors, et pourtant, aujourd'hui, il y a effectivement des journalistes généralistes qui viennent de la presse spécialisée pour certains, donc on peut supposer que, sauf s'ils ont complètement viré leur cutie, ils peuvent bricoler quelque chose. Mais c'est pas évident. Donc, du coup, on peut pas transvaser cette expérience-là, faut inventer d'autres traitements. C'est pas évident, et en même temps, c'est assez drôle. Parce que, du coup, c'est vrai que comme la presse spécialisée, elle a des traitements qui sont très identifiés. Alors, news, preview, test, on les connaît. Hein. Ça fait que dans la presse généraliste, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il y a un côté expérimental. C'est qu'on peut, traiter tout ce qui n'a pas été traité. On peut imaginer des angles qui n'ont pas été forcément abordés. Et du coup, il y a un peu carte blanche. Ça, c'est chouette.
Juste de manière. Ah oui, vas-y.
On peut faire des sujets sur les pelles dans le jeu vidéo, c'est complètement improbable.
Ah oui, mais ça, c'était merveilleux.
Non, mais c'est.
Je peux te dire.
C'est juste parce que ça n'a jamais été fait par la presse spécialisée. Donc, du coup, à un moment donné, sur un malentendu, on peut faire un sujet sur les pelles dans les jeux vidéo.
C'est paradoxal parce que la presse spécialisée, elle est censée être spécialisée. Un petit mot, quand même, de manière générale, concernant la catégorisation, la rubrique. Souvent, ces papiers-là tombent. Alors, parfois, tu l'as dit, Chloé, en rubrique éco, parce que c'est des papiers stratégiques, mais souvent, quand même, le jeu vidéo est rangé dans la tech. Est-ce que vous approchez cette nomenclature-là, pour le coup? Est-ce que vous la trouvez pertinente?
Après, pour faire une réponse honnête, ce n'est malheureusement pas à notre niveau que ça se décide. Où est-ce que ça va être rangé, ces nouveaux contenus?
C'est aussi difficile. Les menus ne peuvent avoir qu'un certain nombre de places, et le jeu vidéo peut-être pas un sujet à part entière à ses vendeurs.
Il y a déjà ça à régler, c'est la question toute bête, mais sur ton header, où est-ce que tu mets jeux vidéo? T'as déjà ça. Et après, t'as aussi des questions d'audience, tout bêtement. Est-ce que ce sera plus vu si c'est plutôt du côté high-tech, qui est une rubrique traditionnellement extrêmement vue sur les presses, les sites de presse généralistes. Est-ce que ça a plutôt sa place en culture, mais dans ce cas-là, ça sera un peu moins mis en avant. C'est des trucs un peu complexes et qui vont au-delà du comment est-ce qu'on veut le jeu vidéo. C'est aussi des questions d'audience, de stratégie, éditoriale. Donc c'est un peu compliqué. Et, tu vois, enfin au Figaro, on a commencé en culture et maintenant on repart sur le high tech. Donc c'est high-tech, économie, etc. Enfin, c'est comme la high-tech est passée de l'univers actualité à l'univers économie chez nous. Enfin, c'est voilà, il y a pas mal de changements, mais qui ne sont pas décidés à mon petit niveau. C'est bien plus haut.
D'accord. Du côté du monde, Pixel est aussi rangé dans techno, sauf erreur.
Alors, là, pour le coup, c'est vraiment parce qu'il y a une longue histoire derrière.
Uh-huh.
Il y a une chaîne techno, historiquement, au monde depuis plusieurs années. Damien Leloup, quand il a lancé Pixel, avait vocation à proposer quelque chose de différent. Pas une pure chaîne techno, mais beaucoup plus une chaîne consacrée à la culture du numérique
uh-huh.
et aux problématiques qui tournent autour du numérique. Alors, ça inclut énormément de choses qui vont... des produits techno purs et durs, mais pas tant que ça, aux jeux vidéo, clairement, à tout ce qui relève de la vie privée en ligne et aux affaires Snowden et compagnie. Donc c'est le spectre relativement large, et on est vraiment, juste pour finir, sur tout ce qui relève du numérique, mais en tant qu'objet de société. Donc l'aspect techno, en fait, c'est en arrière-plan seulement.
Mais tu me diras, c'est exactement la même chose pour la question du high-tech. Où est-ce que tu le ranges ? Est-ce que tu le ranges plutôt en économie, du coup plus en produit, ou est-ce que tu le ranges plutôt en société ? Parce que, mine de rien, le numérique change un peu nos vies. Et au final, tu te retrouves à faire des deux. Enfin, quand tu traites de la high-tech, et voilà, la question c'est où est-ce que c'est plutôt de l'éco, c'est plutôt de la société, où est-ce qu'on le met? C'est pareil pour le jeu vidéo. C'est est-ce que c'est de l'éco, est-ce que c'est de la culture, est-ce que c'est du sociétal? C'est transversal.
C'est très universitaire pour le coup. On a l'impression qu'on peut glisser les choses dans plein de domaines différents.
Bah ouais.
C'est intéressant. Là-dessus, d'ailleurs, en parenthèse, comme tu me parles de la ligne de Pixel, ça me fait beaucoup penser à ce qu'a fait Juan Cario, Camille Gévaudan et d'autres pour écran sur Libération.
Mm-hmm.
On a personne de chez eux ce soir, mais voilà, il y a aussi cette logique-là qui est derrière écran et Libération qui en parlent depuis pour le coup très longtemps, beaucoup plus longtemps même à mon avis que Le Figaro et Le Monde. Oui.
Mais Yann, juste parce que déjà je peux pas faire une émission sans placer une métaphore idiote.
Vas-y.
En fait, la question elle est relativement simple. Tu as chez toi un petit meuble où tu ranges tes affaires intimes.
Mm-hmm.
Tu as dans le premier tiroir en bas des chaussettes.
Oui.
Tu as dans le tiroir du milieu, tu as tes slips.
Oui.
Et tu as dans le tiroir du haut les soutiens-gorge de Madame.
Bien sûr.
D'ailleurs, Switcher va supposer que tout ça est à madame, ça simplifie les choses. Voilà qu'arrive d'un seul coup un entrepreneur génial qui invente une espèce de sous-vêtement qui fait en même temps chaussette, slip, culotte, hein, comme vous préférez, boxer, et soutien-gorge.
Mm-hmm.
Et là, toi, tu es confronté à un dilemme, c'est dans quel tiroir je le range.
Ah, c'est vrai. C'est vrai, mais pour le
Et le problème du jeu vidéo, c'est celui-là. C'est qu'en vrai, tu peux le ranger dans n'importe lequel des trois tiroirs. Tu peux le laisser dépasser un petit peu. Quel que soit le tiroir, il sera forcément un petit peu à sa place, mais il manquera dans les deux autres.
D'accord. Oui, non, effectivement, c'est une bonne analogie pour le coup. Et en même temps, on va pas pouvoir trop sortir la paire de ciseaux pour pouvoir couper le sous-vêtement en trois. Juste des petites questions un petit peu plus rapides pour le coup. La première, toute simple pour vous qui travaillez pour des médias, des grands médias, des médias reconnus français et reconnus aussi dans le monde d'ailleurs. Hein, les marques comme Le Figaro et Le Monde, ça en jette. Ça ouvre plus de portes pour avoir par exemple des interviews, un review code pour critiquer un jeu, ce genre de choses là. Est-ce que ça se passe plus facilement parce que vous avez cette expérience là, vous avez aussi travaillé que ce soit dans la presse tech ou même dans la presse spécialisée jeux vidéo. Est-ce qu'on est mieux considéré quand on fait partie du Figaro ou du Monde?
Alors oui, mais avec un distinguo.
Ah.
Tu es encore plus reconnu quand tu écris dans le journal papier.
Ah bah, il y a forcément la légitimité, l'histoire derrière, je pense,
voilà.
qui est marquée, plutôt que sur le web où tu es en concurrence finalement avec la presse spécialisée en ligne.
Bah disons qu'il y a, c'est même au-delà de ça, hein, c'est le prestige. Et pour beaucoup de sociétés, et pas que dans le jeu vidéo, hein, toutes les sociétés,
c'est plaisant.
C'est beaucoup plus prestigieux d'avoir un article sur ta société dans le journal papier que tu vas pouvoir encadrer, découper, montrer, etc., que juste envoyer un URL à ton équipe.
Et c'est même beaucoup plus plaisant pour les actionnaires, pour le coup.
Voilà, c'est du prestige. Et donc, pour moi, avoir fait les deux, pour être passé du Figaro.fr au Figaro tout court, c'est, j'irai pas le jour et la nuit, mais pas loin, au niveau de l'accessibilité à certaines personnes. Tu vois, par exemple, au .fr, je avais des interlocuteurs français. Maintenant, je touche l'international.
Effectivement.
Tu vois, au niveau de Sony, Microsoft, etc. Voilà, ça change, disons, tu changes de dimension, et c'est tout de suite, ah oui, oui, pas de problème, pas de problème.
D'accord. William, quelque chose à ajouter sur la question ?
Non, c'est vrai. C'est vrai que... Alors, je suis pas forcément... ouais, j'écris pas autant dans le print que Chloé du tout. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est une demande qu'on entend. Et ça passera dans le print aussi.
Ah ouais, alors ça, c'est la question.
On sent que c'est mieux si ça passe dans le print. Mais ceci dit, de manière générale, c'est vrai que la carte du monde ouvre des portes. Ça c'est évident.
Ah ouais, c'est évident.
Pour être passé par des magazines vraiment spécialisés ou même avec la meilleure volonté du monde, on se prenait les portes fermées. Ouais, c'est des interviews que j'aurais rêvé d'avoir. Aujourd'hui, une interview avec Sid Meier, même si en vrai elle était très courte, parce qu'après il y a aussi en fait l'envers. C'est-à-dire que évidemment, comme vous êtes très recherché, on va vous impliquer dans un plan com. On est très content que vous soyez prêt à donner de la parole à des créateurs, mais il y a le risque de l'instrumentalisation qui existe aussi.
Mais comme au cinéma finalement.
Bien sûr. Ça c'est classique. C'est à un moment donné, on va avoir une figure un peu tutélaire qui est très très connue, qui est très médiatique, qui va proposer une interview, même si dans les faits, si ça se trouve en fait, a très très peu touché au jeu. Un cas classique, c'est Shigeru Miyamoto, qui aujourd'hui reste le porte-parole de la création chez Nintendo, alors qu'il s'est énormément éloigné des tâches de création au quotidien.
Oui, c'est devenu de plus en plus une figure médiatique. Notamment, il s'est promené, je crois, à ce faire dans des vidéos YouTube maintenant, accompagné de Régis Aimé. Enfin, ça devient quelque chose d'assez amusant pour le coup. Je crois qu'il est passé chez, si je ne fais erreur, chez Ijustine, un truc comme ça, qui est une YouTubeuse très très suivie outre-Atlantique. Quel genre de papier ont la chance d'atteindre le print ? On en parlait il y a un instant. Plusieurs papiers arrivent sur le print. Il y a quand même des particularités. C'est vraiment les papiers stratégiques. Est-ce qu'il y a un choix qui est différent, malgré tout ?
Bah, écoute, sans surprise, oui, les papiers stratégie, ça, évidemment, ça passe. Mm-hmm. Et puis, ou alors, si tu veux être sûr que ça passe dans le print, il faut qu'il y ait une actualité forte. Ce qui passe aussi, parce que ça, c'est plus des marronniers, c'est voilà, un peu la bataille de Noël. Mm-hmm. Ça, voilà, tu refais un peu la revue des forces de chacun. Et tu sors un peu ta boule de cristal. Les chiffres aussi, parce qu'évidemment, en économie, on aime ça, c'est les chiffres. Mm-hmm. Donc voilà, dès qu'on a des chiffres concrets sur le marché français, etc., ça, il y a
même
des grandes chances que ça sorte dans le journal papier.
Enfin, une petite brève du style, Sony a vendu 18 millions de PlayStation 4, ouais.
Ouais, mais alors ça, on va pas forcément être très friand, parce que c'est une information que tout le monde a.
Ah, d'accord.
Par contre, si c'est nous qui avons l'exclusivité sur, je sais pas, le nombre... voilà, ça a été donné à tout le monde, mais le nombre de PS4 en France, c'est une info à nous. Donc, évidemment, on va plutôt privilégier une sortie dans le journal papier. Mais après, les 18 millions de PS4, je ne sais quoi, ça peut faire une brève, ou alors ça peut faire un papier développé, si genre, par exemple, quand c'était au tout début, tu vois, quand ils balançaient les chiffres les uns et les autres, Xbox et PlayStation, et qu'il y avait vraiment un gros différentiel. Donc là, au début, j'ai fait des papiers pour le print, et après, bon, quand c'était toutes les deux semaines, ils sortaient des chiffres, au bout d'un moment, on va se calmer, et on va leur laisser, voilà, déclarer les chiffres, et puis on va se mettre un peu, on va prendre un peu de recul sur tout ça. Donc on le relayait plus forcément, on faisait peut-être juste des brèves sur le site. Et parce que tu vas pas faire non plus 36 papiers pour dire alors ils en sont là, et puis l'autre ils en sont là. D'accord. Et puis ah, puis là ils sont montés. Ah, puis les autres aussi. Donc ouais, au bout d'un moment c'est plus très très intéressant. Et donc
voici,
ouais. Bon.
Voici un graphe avec le même mouvement partout.
Voilà. Et donc voilà, après les papiers print, bah aussi, bah voilà, tout ce qui est un peu angle, un petit peu original. Ça aussi ça marche plutôt bien. Et donc moi j'ai la contrainte qu'il faut qu'il y ait un angle économique.
D'accord. William, quelque chose à ajouter sur la question ?
Bah alors là, pour le coup, c'est vraiment spécifique à Pixel. C'est que Pixel, en tant que rubrique du monde.fr, s'interdit quasiment de parler d'économie. C'est pas son spectre, c'est pas son identité. Donc du coup, ça m'est arrivé d'écrire pour le print, où j'écrivais des articles, des articles échos, mais qui était une commande du print, mais qui n'était pas publié forcément sur Pixel. Les sujets sinon qui vont être pris de pixels sur le print, en général, c'est les sujets sociétaux. Encore une fois, hein, c'est une tradition. C'est une tradition, c'est assez logique. Hein, c'est le côté éco, côté Figaro, et le côté société, côté Le Monde.
Ça suit la ligne éditoriale du journal, finalement.
Ça suit une tradition. Ce qui est intéressant, c'est qu'au print et au web, on va pas forcément avoir exactement les mêmes envies de traitement par rapport aux jeux vidéo. Même quand on parle de société, c'est vrai que typiquement au niveau de Pixel, on va peut-être on s'intéresse à l'humain, très clairement, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de raconter un petit peu les souvenirs ou les expériences que les joueurs ont avec leur jeu. Alors que c'est vrai que, historiquement, au niveau du print, ils sont peut-être un peu plus en train de se demander alors quelles sont les conséquences du jeu vidéo sur les gens qui jouent. Et forcément, on va être davantage dans le débat sur, alors, est-ce que l'addiction, est-ce que le jeu vidéo s'insère dans une vie familiale, comment ça se passe ? Donc on prend finalement l'objet peut-être de manière un petit peu plus extérieure. Mais encore une fois, c'est normal. C'est la continuité d'un traitement qui est né dans les années 90 et qui évolue petit à petit.
Comment vous voyez le fait que la presse spécialisée, malgré tout, ça se voit beaucoup outre-Atlantique et ça commence aussi à se voir en France, en tout cas pour certains titres de presse spécialisés, commence aussi à finalement quitter le simple cryptique news, test et forum, astuces, etc. et commence à développer des contenus qui justement vont creuser un peu dans votre sens, vont creuser dans le culturel, vont creuser dans l'économie, la stratégie, etc., etc. Comment est-ce que vous voyez poindre ça comme une bonne chose, comme des concurrents potentiels? C'est quand même intéressant pour le coup de voir ces papiers-là arriver.
Bah, titre personnel, moi je trouve ça très très bien. Voilà, qu'il y ait ces types de papiers qui arrivent dans la presse spécialisée, que je ne considère pas comme étant une concurrente, parce qu'on a des publics différents. Donc pour moi, c'est pas... voilà. On n'est pas en concurrence. Il y a pas de. Enfin, pour moi, c'est très clair. Je sais pas si pour toi, William, c'est la même chose. Mais voilà, je ne considère pas que la presse P est une concurrente du Figaro. Enfin, clairement pas.
Je ne vois pas comment une concurrence serait possible. Il y a un truc tout bête. Hein, on n'y pense pas forcément quand on clique sur un site. On voit deux URL différentes et puis on se dit que c'est pareil. Mais sur le jeu vidéo, on est quoi? On est un ou deux à traiter de jeux vidéo au monde.fr. Figaro, ça doit être plus ou moins la même chose.
Oui, c'est pareil.
Forcément, un site comme Gamekult, par exemple, c'est une dizaine de personnes, sans compter les pigistes. C'est des armées par rapport à ce que peuvent faire une ou deux personnes. Donc, de toute façon, les enjeux sont juste pas du tout les mêmes. On peut très bien avoir un lecteur d'un site spécialisé qui va lire un site généraliste pour voir ce que le site généraliste dit en complément du site spécialisé et réciproquement. En l'état actuel, peut pas y avoir de concurrence. Vraiment pas.
Et puis je pense que tu te rends compte aussi, Will, il y a on voit qu'il y a des mouvements d'échange entre la presse gênée et la presse P, dans le sens, tu vois, on de plus en plus on se cite mutuellement. Enfin, il peut y avoir une news sur Gamekult, sur un papier du Monde ou du Figaro, et inversement, nous on va reprendre des éléments qui sont sortis sur la presse SP pour alimenter un papier parce qu'ils ont une donnée que nous on n'a pas eu. Enfin voilà, c'est pas voilà, il y a pas un rideau de fer entre les deux univers, on se parle, on s'apprécie des fois et même très généralement. Ouais, il y a pas de souci.
Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Je me suis fait la remarque des fois, mais sans le formuler. Il y a des moments où voilà, tu embeds, enfin, tu mets en lien un site spécialisé, et tu te dis, ça fait bizarre un petit peu sur un site comme Le Monde, où c'est vrai que t'as l'habitude de voir des liens vers le New York Times, vers The Guardian, et d'un seul coup, tu te dis, tiens, ok, ça fait curieux. Mais en même temps, c'est normal. Le jeu vidéo n'a pas été, il y a quoi comme médias de référence qui se sont structurés dans le jeu vidéo? Alors Edge, bien sûr, mais sur le long terme, qui est l'aura et le prestige au niveau du jeu vidéo que peuvent avoir de grands médias internationaux pour le journalisme en général, je ne vois pas forcément. Ça, c'est une problématique qu'ont également les universitaires qui se sont intéressés aux jeux vidéo. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont commencé à chercher des sources, parce qu'il fallait bien, à un moment donné, s'appuyer sur des travaux préexistants. Mais le problème, c'est que, comme l'université est arrivée sur le jeu vidéo un petit peu en retard, avec 20 bonnes années, voire 30 de retard sur le phénomène. Pendant 20, 30 bonnes années, les seuls à avoir étudié le jeu vidéo, c'était des journalistes spécialisés ou des amateurs qui écrivaient sans forcément avoir la rigueur ou en tout cas la méthodologie universitaire, mais qui ont fait parfois des travaux intéressants et qui ont apporté quelque chose. Et du coup, l'université s'est trouvée un petit peu gênée. C'est que, comment on fait pour citer ces gens-là, alors qu'ils sont pas, ils ne relèvent pas d'une source qu'on est habitué à citer, on n'est pas à l'aise avec ça, ça fait amateur. Et en même temps, ils apportent des informations qu'on n'a pas nous. Et du coup, il a bien fallu les citer au final. Là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu différent dans la mesure où quand même les sites actuels existants, bon, ils ont déjà quand même assez largement fait leur preuve, donc c'est pas trop souci. Mais c'est vrai que c'est marrant, quoi. Comme tu dis, il y a pas de mur entre les deux. Il y a une espèce de continuité du côté du jeu vidéo qui n'existe pas forcément, je pense, du côté d'autres rubriques.
Notre ami.
Ah, vas-y. Il y a juste quelque chose que je voudrais ajouter, enfin, qu'il faudrait aussi, je pense, rappeler, c'est que la place du jeu vidéo dans la presse généraliste, c'est rien. Enfin, c'est tout petit. C'est pas un enjeu d'audience. On trouve important de le traiter, mais c'est pas aussi important qu'une rubrique internationale, qu'une rubrique politique. Ben voilà, il faut aussi remettre un peu les choses en contexte. C'est pas non plus quelque chose d'énorme. Et du coup, ce qui fait que, vu qu'il n'y a pas non plus énormément d'enjeux, on peut aussi se faire plaisir.
Et c'est, alors justement, je reviens à une question que Taleboules posait il y a un instant sur Twitter. Il demandait si vous aviez la même pression du lectorat. Il appelle ça la pression du clic, avec ben voilà simplement le revenu qu'apporte vos articles à la boîte. Pour le coup, c'est pas tellement le cas. L'idée, c'est vraiment de faire de
En tout cas de mon côté, clairement pas.
Voilà, d'accord, très bien. Du côté du Monde non plus.
En fait,
est-ce que c'est un enjeu ou est-ce qu'on peut ne pas en parler? C'est aussi possible que ce soit pas un sujet sur lequel tu veux pas t'avancer. Mais...
Non, c'est un enjeu. C'est un enjeu au sens où c'est important de traiter et de montrer que le monde traite le jeu vidéo en le prenant finalement au sérieux, en prenant les joueurs, en se mettant au niveau des joueurs tout simplement. Et non plus forcément que comme un objet purement extérieur qu'on regarderait d'un air étonné, ce qui était une posture qui était compréhensible il y a 30 ans. Et aujourd'hui, voilà, quand vous avez une grande partie de votre lectorat qui est lui-même joueur, vous êtes obligé de le traiter comme tel. Mais c'est évidemment beaucoup moins important que l'international ou que la société. Enfin, c'est évident. C'est évident. Alors, il y a un tweeto sur Twitter qui répond au nom de Boulapoire.
Il vient de Jam Culte, sauf erreur.
Ah oui, c'est ça, c'est lui. Ah d'accord. Qui nous dit on ne nous enlève pas de l'idée que ça nous regarde un peu de haut dans la presse généraliste quand même. Alors oui, bien sûr, évidemment, cher ami. non mais faut rappeler quelque chose. En tout cas à mon niveau, je suis du coup lecteur de la presse spécialisée tous les jours. Alors évidemment, c'est de là que je viens. Mais en plus, c'est juste indispensable. C'est juste indispensable. Enfin, c'est une bouée pour suivre l'actualité du jeu vidéo. Juste bêtement, moi je le voyais quand je bossais dans une rédaction de jeux vidéo et je me disais à 10 ou 15, mince, on n'arrive pas à tout suivre. Et qu'on se retrouve d'un seul coup hein, tout seul. On se dit, mais waouh.
De quoi je parle?
Ça part de partout. Juste pour faire le test du moindre jeu en période de novembre-décembre, ça prend 10-15 heures pour finir un jeu ou avoir une bonne vision. Sauf que le temps de faire ce jeu-là, il y en a 10 autres qui sont sortis. Et là, vous vous apercevez que vraiment, un site spécialisé, c'est une machine de guerre avec des gens qui sont spécialisés, qui sont vraiment super compétents sur des domaines assez précis parfois. Et que c'est une expertise que vous ne pouvez pas conserver au même niveau lorsque vous traitez le jeu vidéo dans un site. C'est général, c'est juste impossible. Donc c'est aussi pour ça que de toute façon la complémentarité elle est évidente. Le jeu vidéo peut disparaître, je pense, d'un site généraliste, mais l'inverse n'est pas vrai.
Brièvement,
Darkoubi
demandait la façon dont vous traitiez le jeu indé sur vos sites et sur dans vos organes de presse respectifs. Il y a un traitement particulier par rapport au jeu indé?
Alors, je pense que c'est vraiment traité exactement maintenant, de la même façon que les autres jeux.
Parce que vous avez simplement peut-être pas le temps de faire une grosse différence.
Non, même pas. Non. J'ai envie de dire que on essaye de montrer de toute façon la diversité du jeu vidéo. Donc, si on fait, si on parle que de jeux indés, on rate quelque chose. Si on parle que de gros blockbusters, on rate quelque chose. Donc, et puis entre les deux, de toute façon, il y a tous les jeux qui sont un petit peu intermédiaires, avec des budgets intermédiaires, et eux aussi, il faut en parler. Donc, non, je pense que c'est à notre niveau, c'est juste intégré que ça existe. On peut pas faire sans, parce que de toute façon, c'est un réservoir à idées formidables. Un jeu comme Shovel Knight, ça a été notre grand coup de cœur de l'année 2014. Donc, c'est juste parfaitement intégré. J'ai presque envie de dire, on se pose même pas la question.
Simple. D'accord. Dernière petite question. Vous dites donc que vous êtes un, deux dans vos, encore une fois, dans vos médias respectifs pour parler du jeu vidéo. Est-ce que vous voyez cette part-là de gens qui parlent de jeux vidéo dans ces médias grossir dans les années à venir? William, tu disais tout à l'heure, ça peut grossir, ça peut baisser. Finalement, on n'est pas certain. Quelque chose à ajouter par rapport à ça?
Je pense que
c'est ce constat-là finalement, on sait pas.
De manière purement générationnelle, le jeu vidéo ne peut faire que grossir et prendre de l'importance. Tout simplement parce qu'on est la génération des années 80 a grandi avec le jeu vidéo, ce qui n'était pas le cas des années 70 forcément. Il y a encore plus de personnes des années 90 qui ont grandi avec le jeu vidéo. Il y en a encore plus dans les années 2000, ou en plus dans les années 2000, si vous voulez, c'était mixte, quasiment pour la première fois, ou en tout cas, il y a une mixité dans le public du jeu vidéo qui a été énorme. Mm-hmm. Donc, ce qui fait qu'à terme, je pense qu'on va arriver d'ici peut-être 10-15 ans, je dis ça un petit peu au hasard, hein, on arrivera à un moment donné où le jeu vidéo sera l'intérêt ou sera connu de 90 à 95% du lectorat de n'importe quel site généraliste.
D'accord. Mais après, il ne faudra pas non plus s'attendre à des niveaux d'équipe énormes, parce que quand tu regardes même dans les quotidiens généralistes, combien est-ce qu'il y a de spécialistes ciné? Bon, bah, t'aurais peut-être 4, 5 maximum critiques.
Donc il reste un plafond quand même par importance du sujet, tout simplement.
Voilà, tout simplement.
D'accord, très bien. Ben, merci à vous deux, ce sera le mot de la fin pour cette rubrique consacrée aux jeux vidéo en presse généraliste web et print. Merci à toi, William. On rappelle qu'on peut te lire donc sur lemonde.fr dans la rubrique Pixel et on peut te suivre @WillVS sur Twitter. Merci d'être venu.
Ben, merci à vous.
Et merci beaucoup Chloé, W_Chloé sur Twitter et puis Le Figaro, print et web. Merci.
Ben, merci à vous.
Et puis donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Player Club. Laissez-moi vous dire d'ailleurs à cet effet et avec un petit peu d'avance pour une fois, hein, comme ça, on est comme ça, que le Player Club, c'est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain, 21h, en direct chez nos partenaires de la web radio Synops Live, et 24h sur 24 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV, radiojv.com. Donc voilà, prochain numéro du Player Club la semaine prochaine. Très bientôt, on va vous tenir au courant sur des événements qui se passeront à Paris en février. Normalement, demain, on devrait poster quelque chose sur le site et on se contentera de vous répéter jour et nuit dans les différentes émissions, le contenu, ce qu'il y aura, qui vous pourrez voir, les émissions qu'il y aura en public, les émissions qu'il y aura en direct, les choses qu'il y aura en audio, même des choses qu'il y aura en vidéo, croyez-le. Donc, pour mi-février, plus d'informations très prochainement, mais encore plus prochainement que ça, ce sont nos amis de Passe-le-Stick qui sont avec nous ce soir. Bonsoir les amis.
Bonsoir Paris.
Bonsoir. Ouais,
non, c'est bonsoir Internet pour le coup dans ce cas-là.
C'est comme on est à Paris, on salue une espèce de public imaginaire comme si on était à Paris. C'était pour rebondir sur ce que tu disais, Ing, s'il te plaît. Commence pas à faire ton espèce de Suisse, hein, ça suffit.
Oh mon dieu.
Par contre, les autres, on leur dit pas bonsoir, c'est ça?
Non, les autres, on s'en fout. Bonjour, au revoir les autres.
C'est les provinciaux.
Ouais, on s'en fiche. Non, bonsoir scandale. Les autres, évidemment. Bon, on peut discuter.
Ben voilà, on a un petit peu d'avance. Bah, justement, en discutant de quoi tu vas parler et de quoi vous allez parler ce soir dans Passe-le-Stick.
Il y a quand même eu un Nintendo Direct, donc ça va être difficile de passer à côté, connaissant notre taux de Nintendo sexualité à tous. Mm-hmm. On aura également une chronique sur Elite Dangerous et on aura un petit débat sur la gestion des vieux catalogues, notamment chez Sony et Nintendo, en dernière partie d'émission.
Mm-hmm. J'ai entendu une voix qui fait pas partie de l'équipe, c'est
oui,
qui est avec
on,
vous.
On aura Mea avec nous. Bonsoir.
Ouais, d'accord,
Mea.
Vieux catalogue, merci. Non, c'est bon.
C'est bien de recycler les invités de la première saison, moi je suis pas contre.
Non, mais c'est le vieux
Monsieur
catalogue.
Monsieur Papillon est d'accord avec ça.
Donc on parlera des vieux catalogues chez Sony, Nintendo et chez Passe-le-Stick, on ressort un vieux.
Parce que Mea, il est rétro-compatible.
Bah oui, Mea est complètement rétro-compatible.
Très bien, bah je crois qu'on a atteint 22h, ça veut dire que je peux te passer l'antenne. Bonne émission à tous.
Merci, Inks.